Merci beaucoup pour votre accueil. Je me réjouis d'être avec vous ce matin et d'être là avec vous pour les deux prochaines années. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour cette porte qu'il a ouverte pour un stage. Et voilà, j'espère que je pourrai vous servir pendant ces deux années, apprendre à vous servir. Et j'espère surtout que Dieu pourra nous bénir ensemble. Je me réjouis de prendre le temps d'essayer de vous connaître chacun, chacune. Et voilà, c'est une grâce pour moi d'être là ce matin. On ne prie jamais assez, alors je vais prier encore une fois avant de commencer à prêcher. Père, merci pour ce que tu as prévu ce matin. Seigneur, tu es souverain. Seigneur, tu vois les manquements, les manques de mes compétences. Seigneur, tu vois à quel point je suis limité. Toi, tu peux toucher les cœurs. Toi, tu peux faire quelque chose. Seigneur, ta parole est là, tu es agissant, tu es puissant, tu es souverain. Seigneur, alors je prie, Seigneur, que le focus soit pas sur moi ce matin, le focus soit sur toi. Je prie, Seigneur, que tu puisses faire naître au travers de ces quelques mots la confiance, la foi dans les frères et sœurs qui sont ici, dans cette église qui est là, Père. Et dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Je me rappelle d'un pasteur qui nous a dit une fois: on a tous, chacun, un souci. Alors, on peut avoir un souci plus ou moins grand. Et j'aimerais vous poser ce matin, c'est quoi ton souci? Tu es peut-être étudiant, tu es peut-être employé ou patron. Quel est ton souci ce matin? Quelle est ta difficulté? Quel est ton fardeau? Et pour certains, la difficulté va paraître peut-être légère, pour d'autres, beaucoup plus grave et importante. Et pour d'autres encore, ce fardeau, ce souci, tu le traînes depuis des années, et tu ne vois pas les choses changer. Et dans cette situation, où est Dieu? Où est Dieu dans ce défi? Et le peuple d'Israël, tel qu'on le voit dans Exode 1, il est dans cette situation. Ça fait des années, des décennies, des siècles qu'il souffre sous l'esclavage. La terre d'asile, de refuge, s'est transformée en véritable camp de concentration où tu te lèves le matin pour être exploité toute la journée, travailler dans la poussière à longueur de journée. Tu as des contrôleurs de travaux qui te traitent durement. Où est Dieu? Où est Dieu? Et la situation s'aggrave. Un jour, on t'annonce que les Égyptiens ont le droit de prendre ton petit garçon et de le jeter dans le Nil. Et la situation dure. Où est Dieu pendant toutes ces années? Et on vient de lire le chapitre 2, et la situation ne semble pas réellement s'améliorer. On voit l'histoire d'un petit garçon, il est sauvé, il devient prince, il se transforme en meurtrier, et à la fin, pour échapper à la punition, il est condamné à fuir à l'étranger, pour ce qui semble être le restant de sa vie, à s'occuper d'un troupeau. Et pendant ces 80 années où il grandit et où il vit à l'étranger, 40 plus 40, le peuple continue de souffrir. Des couples sont forcés de voir leur petit bébé se jeter dans le Nil. Où est Dieu? Alors, peut-être me direz-vous, c'est difficile d'associer ma souffrance ou ma difficulté ou mon souci à la souffrance de l'Égypte, parce que ma souffrance, mon souci n'a pas... Voilà, on n'est pas aujourd'hui dans une telle situation. La situation en France, elle est quand même beaucoup plus légère. On vit dans une vie assez confortable, relative. Alors, est-ce que ce texte a vraiment quelque chose à te dire ce matin? Est-ce que ce texte a quelque chose à nous dire ce matin? J'aimerais vous dire que oui, pour trois raisons. Première raison: la persécution touche des chrétiens aujourd'hui, et peut-être qu'elle pourra nous toucher demain. La situation peut changer du jour au lendemain, et demain, peut-être que toi, moi, on ne pourra pas se réunir de cette manière ici, et on sera dans la même situation dramatique et difficile que les Égyptiens. C'est la première raison. Deuxième raison, le chrétien n'échappe pas à la maladie. Face à la maladie, la souffrance physique et émotionnelle, notre foi est menacée. Quand ton enfant doit lutter jusqu'à la mort parce qu'il a un cancer, Où est Dieu ? Le chrétien peut faire face à ses souffrances. Et la troisième raison, c'est que si nous ne sommes pas persécutés, ou si peut-être nous ne sommes pas atteints d'une maladie grave ou d'un autre souci, nous vivons dans un monde où les autres autour de nous nous font mal. J'ai entendu le témoignage d'un frère chrétien et il doit s'occuper à la fois de deux petits-enfants, un qui a 3 ans et l'autre qui a 20 ans. Son fils les a eus avec 2 femmes différentes. Il refuse d'avoir des relations avec chacune d'entre elles. Il a fait de la prison et il a déjà pris ce père en otage. Il est chrétien et il souffre. Il souffre, il a cette souffrance conséquente. Alors où est Dieu ? Alors aujourd'hui, je ne sais pas quel est ton souci, je ne sais pas quelle est ta souffrance. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas de grande souffrance. Mais on ne sait jamais quand la tempête de la maladie, de la persécution, ou alors de ce que quelqu'un peut faire, va te faire, peut se lever du jour au lendemain. Alors mieux vaut être prêt. Et aujourd'hui, mon but, ce n'est pas de dépeindre un tableau noir de la souffrance de l'humanité, mais c'est de montrer à quel point Dieu est grand, fidèle et puissant, et qu'il est toujours là, à travers de ce passage, Exode 2. J'aimerais donc poser 2 questions. Si le chrétien souffre et qu'il a l'impression qu'il ne voit pas de changement, que rien ne se passe, est-ce qu'il a raison d'espérer quelque chose de Dieu ? Parce que je souffre, rien ne se passe, Dieu, tu ne fais rien. Est-ce qu'on a raison d'espérer ? Est-ce que Dieu veut vraiment faire quelque chose ? Est-ce que Dieu se soucie de ces questions ? C'est la première question que j'aimerais poser. La deuxième question, et si Dieu se soucie, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance en lui ? Est-ce qu'il peut faire quelque chose ? Et j'aimerais répondre à ces 2 questions par 2 critères. Oui, Dieu est une espérance parce que, à cause de qui Dieu, de ce que Dieu a fait, Dieu est un Dieu d'alliance. Et oui, nous pouvons avoir confiance en Dieu parce que Dieu est un Dieu fidèle. Alors, est-ce que nous pouvons espérer quelque chose de Dieu ? Prenons le verset 24. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. La seule raison pour laquelle le peuple d'Israël, depuis tant d'années dans la souffrance, peut espérer que Dieu fasse quelque chose pour lui, c'est parce que Dieu a fait une alliance avec lui. Ce mot « alliance ». Il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Qu'est-ce qu'une alliance ? Dans une alliance, 2 parties ou 2 personnes s'engagent à faire certaines choses pour l'autre, sous certaines conditions. Ils s'engagent à faire certaines choses pour l'autre, sous certaines conditions. Si un pays s'engage avec un autre pays, fait alliance avec un autre pays, si eux, ils m'attaquent, alors tu viens à mon secours. Et si ils t'attaquent, je viens à ton secours. Je m'engage. C'est une alliance. L'alliance du mariage, 2 personnes qui décident de s'engager dans la richesse comme dans la pauvreté, à se chérir et s'être fidèles jusqu'à ce que la mort nous sépare. Une alliance. Et c'est la raison pour laquelle les Israélites peuvent crier à Dieu. C'est parce que Dieu a fait alliance avec Abraham. Dieu est un Dieu d'alliance. Ce verset 24, est extrêmement important. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. La raison pour laquelle on en est là, après 400 ans d'esclavage, c'est parce que Dieu accomplit son alliance. Dieu accomplit son engagement vis-à-vis de son peuple. Je vous invite à prendre avec moi Genèse 15. Dieu avait fait cette promesse à Abraham. Après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter ». Il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Dieu a fait cette alliance avec Abraham. « Je multiplierai ta descendance. » Et qu'est-ce qu'on voit dans le chapitre 1 de l'Exode ? Dieu multiplie la descendance. Dieu accomplit sa promesse. Peu importe les plans tordus que le pharaon met en place pour exterminer la population continue de se multiplier. Genèse 15, versets 13 à 17. Alors que Abraham demande une preuve, on assiste à la cérémonie de l'alliance, l'alliance qui se passe entre Abraham et Dieu. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi qui la jugerai. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la quatrième génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. » Abraham avait séparé des animaux coupés en deux. Et à l'époque, quand on faisait une alliance, on passait entre les deux animaux, les animaux coupés en deux, pour dire « Je m'engage à respecter cette alliance et si je ne respecte pas cette alliance, que ce qui a été fait à ces animaux m'arrive à moi aussi. » Et le feu de l'Éternel passe entre les animaux. Dieu s'engage vis-à-vis d'Abraham. Avec lui-même, je vais te multiplier. Et il annonce qu'ils seront exportés, qu'ils seront étrangers dans une nation qui va les rendre en esclavage. Et on voit dans chapitre 1, il accomplit cette promesse. Il accomplit cette promesse de les multiplier malgré cela. Et à partir de la fin du chapitre 2, il accomplit la deuxième partie de sa promesse. C'est moi-même qui la jugerai. C'est moi-même qui la jugerai, au verset 14. Dans chapitre 1 et le chapitre 2, on a l'impression que rien ne se passe, la douleur continue. Mais à partir du chapitre 2, le jugement de Dieu commence. Pourquoi est-ce qu'il y a ces chapitres 1 et 2 ? Pourquoi est-ce qu'il y a tout ce livre de l'Exode ? À cause de cette promesse. Si la Genèse raconte comment d'Abraham, Dieu a fait une famille, l'Exode raconte comment d'une famille, Dieu a fait une nation. Parce qu'il est fidèle à son alliance. Cette alliance, c'est le fondement de tout le chapitre 2, le fondement de tout ce livre, parce que Dieu est fidèle à son alliance. Et vous voyez, c'est ce peuple qui souffre pendant des années. Mais malgré les apparences, le peuple de Dieu a de l'espérance. Parce que ce Dieu, leur Dieu, est un Dieu d'alliance. Leur Dieu n'est pas un Dieu qui ne se soucie pas d'eux. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu qui va vers les hommes, qui veut faire une alliance avec eux, qui fait une alliance avec Noé, qui fait une alliance avec Abraham, Isaac, Jacob, avec le peuple. Dieu fait une alliance. Frères et sœurs, si la seule raison pour laquelle on peut avoir une espérance que Dieu nous entend, je ne sais pas quel est ton souci ce matin, on a pris ça pour argent comptant, mais Dieu est Dieu, Dieu fait ce qu'il veut. Qui sommes-nous pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ? Quelle espérance avons-nous que Dieu nous entend ? Mais nous avons cette espérance que Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu ne laisse pas l'humanité dans son péché. Dieu ne laisse pas l'humanité souffrir éternellement. Dieu est un Dieu d'alliance. Il se soucie. Alors malgré les apparences, le peuple de Dieu a de l'espérance parce qu'il sait que Dieu est un Dieu d'alliance. Il sait que Dieu se soucie. Et c'est le fondement de cette espérance. Et c'est la première chose. Nous pouvons avoir confiance à cause de ce que Dieu a fait. Dieu a fait une alliance. Dieu a fait une alliance. Mais si Dieu a fait une alliance, est-ce qu'il est réellement fidèle pour tenir son alliance ? On a dans notre société, vous connaissez aussi bien que moi, de multiples exemples d'alliances rompues. Combien de pourcentages de mariages finissent en divorce ? Combien d'alliances de mariage ont été rompues ? C'est ce qu'on voit tous les jours. Aujourd'hui, l'alliance ne veut pas dire grand-chose. Aujourd'hui, l'alliance, quelque part, on signe, on bat du chèque, et puis après, on se détourne, on arrête. C'est ce que fait l'homme. Est-ce que Dieu est comme cela, lui aussi? Et c'est mon deuxième point. Nous pouvons avoir confiance à Dieu, non seulement à cause de ce qu'il a fait, mais à cause de ce qu'il est. Dieu est fidèle. Quoi qu'il arrive, Dieu répondra. Quoi qu'il arrive, Dieu fera ce qu'il s'est engagé à faire. Et on voit dans ce texte trois éléments, trois choses qui montrent à quel point Dieu est fidèle. Dieu est compatissant, Dieu est sauveur et Dieu est souverain. Dieu entend tes cris. Dieu est compatissant. Dieu est sauveur et Dieu est souverain. Prenons le verset 23 à 25 de Genèse 2. La première raison pour laquelle nous pouvons avoir confiance que Dieu est fidèle malgré les circonstances, c'est parce que Dieu est compatissant. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites. Il comprit leur situation. Leurs appels de détresse du fond de l'esclavage montèrent jusqu'à Dieu. Il entendit, il se souvint. Dieu vit, il comprend, il comprit. Dieu ici a les attributs d'un homme. Il compatit avec la souffrance. Je ne sais pas si certains d'entre vous prennent souvent le métro, mais avec la mélodie de l'aérotopie, il y a une autre mélodie qu'on entend souvent. Elle est dramatique. Elle fait quelque chose comme ça. Bonjour à tous, je me présente. Je m'appelle Alex, j'ai 42 ans. Excusez-moi d'interrompre votre journée. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Je suis dans la rue depuis 5 ans et je n'arrive pas à m'en sortir. Est-ce que vous n'auriez pas une petite pièce de monnaie, un ticket resto, une cigarette? Cette mélodie, cette phrase, ce refrain est devenu si courant dans le métro que bien nombreux des personnes qui les écoutent sont devenues insensibles. Dès que la mélodie commence, on baisse la tête et on retourne sur son téléphone portable. Le nombre de personnes sur le bord du trottoir qui demandent et combien de fois on voit et au premier regard on détourne le regard parce que nos cœurs sont quelque part devenus insensibles. Je me rappelle de la première fois que j'étais enfant et que j'ai vu quelqu'un comme ça dans la rue. En tant que premier enfant, pour la première fois, ça te prend. Tu n'es pas insensible. Mais plus on voit ça, plus on s'habitue. Mais Dieu n'est pas insensible. Dieu ne détourne pas le regard. Dieu, il entend. Dieu, il se souvient. Dieu, il voit. Dieu, il comprend. Et alors, tes émotions, ta souffrance, Dieu la comprend. Dieu la voit. Dieu n'est pas insensible. Dieu n'est pas insensible. Si jamais cette personne qui était dans la rue était un ami, un père, un frère, tu serais moins insensible. Dieu est notre Père. Il n'est pas insensible. Et on voit que Dieu entendit leur gémissement. Peut-être que parfois on n'arrive même pas à prier, c'est tellement douloureux, on est tellement bloqué que les mots ne sortent pas de notre bouche. C'est que des cris ou des soupirs. Des cris ou des soupirs. Mais Dieu les entend. Dieu les comprend avant même que les paroles soient formées sur notre bouche. Dieu connaît la pensée de notre cœur. Et Dieu compatit. Compatit à son peuple. Dieu compatit. Alors, peu importe quel est ton souci ce matin, ou ce qu'il sera demain. Nous allons prendre un temps de prière cet après-midi. Crois-tu, croyons-nous que Dieu compatit, que Dieu a réellement, il est touché, il voit, il entend tes gémissements. Et alors si ce Dieu d'alliance a des sentiments et compatit avec nous, est-ce qu'il agit vraiment? Parce que parfois, nous aussi, dans le métro, on voit les gens qui souffrent et quelque part, les mains restent dans la poche et on marche, on passe notre chemin On est peut-être touché au-dedans de nous, mais ce n'est pas pour autant qu'on fait quelque chose. Peut-être que Dieu est comme ça, peut-être qu'il compatit à ta souffrance, mais il n'agit pas. Mais la raison pour laquelle on peut avoir confiance en Dieu malgré les circonstances, c'est parce que Dieu agit. Dieu est un Dieu sauveur. Dieu fait quelque chose. On voit au verset 11, « Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères, et il vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne, et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. » Pour les libérateurs, pour les premiers lecteurs, Moïse est le libérateur. Ils savent que c'est lui qui va les amener hors d'Égypte. Alors quand ils lisent « Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères, il vit leurs pénibles travaux, il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères, et il le tua. » Alors ça y est, c'est le moment. C'est le moment où Moïse va libérer son peuple, pour les premiers lecteurs. Ça y est, l'heure de la révolution a enfin sonné. Nous pouvons nous rallier derrière Moïse, et la rébellion va se répandre comme une traînée de poudre. Et Moïse aussi croyait cela. Quand on lit dans Actes 7, il était convaincu, il croyait que ses frères allaient le suivre, allaient comprendre qu'il venait pour les délivrer. Mais voilà, on lit au verset 13 et au verset 15. « Quand il sortit le jour suivant, il vit deux Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « L'affaire est certainement connue. » Le pharaon a pris ce qui s'était passé et il chercha à le faire mourir, à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. L'espoir était là, Moïse arrive et c'est le faux espoir. Ils sont dans le désespoir depuis des années, ils souffrent dans l'esclavage. Moïse apparaît, l'allure d'espoir se transforme en faux espoir. Moïse pensait qu'il pouvait sauver les hommes tout seul, sauver son peuple tout seul. Et le peuple, les premiers lecteurs voient Moïse, ils se disent, c'est bon, Moïse va c'est l'histoire de comment Moïse nous a délivrés. Mais la réalité, c'est que Moïse ne sauve personne. Le seul sauveur, c'est Dieu. Le seul sauveur, c'est Dieu. Alors oui, Dieu est touché par la condition, par les sentiments, la tristesse de son peuple. Mais en plus, d'être un Dieu compatissant, c'est un Dieu sauveur, un Dieu qui agit. Il est un Dieu qui agit. Alors que Moïse ne peut pas sauver son peuple, Dieu lui sauve. Il le sauve une fois de l'eau et il le sauve une deuxième fois du pharaon. Dieu a sauvé son peuple deux fois. Dieu a sauvé Moïse deux fois. Et la fin du chapitre 2 jusqu'au cri, c'est Moïse qui est obligé de fuir en exil et Dieu lui permet de trouver un lieu de refuge, une famille. Mais lisez le dernier verset. Elle mit au fond d'un monde un fils, la femme de Moïse, elle mit au monde un fils qu'il appela Gershom, car dit-il, je suis en exil dans un pays étranger. Je suis en exil dans un pays étranger. Le libérateur est en exil. Le libérateur fait face à l'échec. 40 ans de sa vie, il est étranger et l'amertume est en lui, au point qu'il nomme son fils Gershom, étranger. Son plan a échoué, sa motivation n'a mené à rien. Dieu est sauveur. Et parfois, on oublie que Dieu est sauveur. Et face à nos problèmes, on essaie de faire nos propres plans. Mais nos propres plans sont aussi inefficaces. Le peuple se disait, c'est la solution idéale, Moïse, un prince d'Égypte formé dans la plus grande école du pays, il est formé à l'ENA, c'est l'homme le plus intelligent. Ah, il va nous délivrer. Mais même l'homme le plus intelligent ne peut rien si Dieu n'est pas avec lui. Est-ce que nous aussi, parfois, comme Moïse, nous ne précipitons pas face à nos obstacles, est-ce que nous ne nous précipitons pas et nous faisons nos plans, nos projets, nos solutions, nos docteurs, nos méthodes sans nous tourner avant tout vers Dieu ? Dieu est sauveur. Dieu est sauveur. Alors oui, Dieu est fidèle, on le voit parce qu'il est compatissant, parce qu'il agit, il est sauveur. Mais même s'il est sauveur, est-ce qu'il a la puissance de faire ce qu'il veut faire? Et c'est là que tout le chapitre 2 dresse un tableau grandiose. Dieu est souverain. Dieu est le grand chef d'orchestre. Le peuple souffre dans l'esclavage. Les parents de Moïse voient le bébé est beau. On voit au verset 2. Et ils veulent le protéger, ils protègent sa vie. Mais on voit que la situation est désespérée. Ils ont vu des bébés se faire agripper, être jetés dans le Nil. Et leur petit bébé risque de subir la même chose. Comment est-ce qu'ils vont se sortir de cette situation, la situation désespérée? Jusqu'à ce qu'elle le met dans ce petit panier et dans l'eau près des roseaux. Que va-t-il se passer? Comment peut-il être sauvé? La situation est désespérée. Il semble que rien ne puisse le sauver. Il n'y a pas vraiment d'espoir. Mais Dieu orchestre tout. Dieu orchestre tout. Prenons le verset 5. Or la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que le servant se promenait le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Dieu orchestre tout. Au bon endroit, au bon moment, la bonne personne. Si la princesse était allée se baigner ailleurs, la caisse n'aurait pas été trouvée. Si ça avait été à un autre moment, 10 minutes plus tard, la caisse n'aurait pas été trouvée. Et si ça avait été une autre personne, un autre Égyptien, la petite Myriam sur la bord aurait certainement vu cet Égyptien prendre le bébé et le jeter dans le fleuve, parce que l'ordre était de tuer les bébés. Mais c'est la bonne personne. C'est la fille du Pharaon. S'il y avait bien une personne qui pouvait tenir tête face au Pharaon, c'était bien elle. C'était bien elle qui pouvait le recueillir et le protéger. Dieu orchestre tout, le bon moment, la bonne personne, le bon endroit. Verset 6. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. Cela continue. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Dieu, non seulement place la bonne personne, mais il place la compassion dans son cœur. Il place la pitié dans son cœur. La princesse aurait très bien pu ne pas avoir de compassion pour ce bébé et le jeter à l'eau, mais elle est prise de pitié. Et la grande orchestration, le grand salut de Dieu continue au verset 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin qu'elle aille allaiter cet enfant pour toi ?»« Vas-y, » lui répondit la fille du Pharaon. Et la jeune femme alla chercher la femme de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quelle est la situation avant et après? Le petit Moïse est à la maison? Rien n'a changé? Si, quelque chose a changé. Il est protégé par la fille de l'homme le plus puissant du pays. Et la mère retrouve son enfant d'une manière totalement spectaculaire. On ne voit pas le nom de Dieu une seule fois dans cette histoire. Le nom de Dieu n'apparaît pas une seule fois dans cette histoire. Mais pourtant, derrière chaque événement, derrière chaque coïncidence, Dieu agit, Dieu orchestre. Parce que Dieu est fidèle à son alliance. Parce qu'il compatit à son peuple. Il a déjà préparé, il prépare déjà le salut. Parce qu'il est sauveur, il sauve ce bébé pour sauver son peuple. Et parce qu'il est souverain, rien ne peut l'empêcher. Rien ne peut l'empêcher. Et quand il grandit, verset 10, elle l'amena à la fille du Pharaon et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Moïse devient prince d'Égypte, l'outil de la destruction du Pharaon, le tortionnaire, est placé dans sa maison. Il le nourrit, il l'élève, il lui paye ses études. Celui qui fera échouer ses plans, celui qui plongera son royaume dans le chaos, qui le privera de son immense main d'œuvre et qui plongera son armée dans la mer, est élevé dans sa maison. Dieu est souverain. et le jugement promis en Genèse 15, le jugement du peuple, des tortionnaires du peuple d'Israël a déjà commencé. Dieu est souverain en cet instant. Ce téléphone qui sonne, ou la musique à côté, Dieu est souverain. Dieu fait cela, maintenant. Chaque souffle, Dieu te le donne. Chaque parole. Ce matin, le café renversé, le bus manqué, le cri du bébé, la dispute, tout ce qui s'est passé cette semaine, chaque heure, chaque seconde, Dieu est souverain, Dieu est le grand orchestre. Et ce Dieu-là est fidèle à son alliance. Ce Dieu-là est compatissant dans tes épreuves. Ce Dieu-là est sauveur. On a tous un souci, on a tous un problème. Où est Dieu malgré tout cela? Même malgré les apparences, tu peux savoir que Dieu est fidèle, que Dieu est là, parce que Dieu est tout ça. Dieu est fidèle. Dieu est compatissant. Dieu est sauveur. Dieu est souverain. Voilà qui est Dieu. Voilà ce que nous révèle le chapitre 2 d'Exode. Voilà ce que nous révèle tout le livre d'Exode. Alors j'ai commencé mon message avec cette question. Où est Dieu? Où est Dieu quand ça fait mal? Est-ce que je peux avoir confiance en Dieu? La réponse est oui. Je ne sais pas quelle est la souffrance ou la difficulté à laquelle tu fais face ce matin. Peut-être que c'est quelqu'un de ta famille que tu vois s'enfoncer de plus en plus dans le péché, s'éloigner de plus de toi, s'éloigner de plus de Dieu, qui s'enfonce de plus en plus vers l'enfer et la souffrance éternelle. Et même si tu ne vois pas de changement, Dieu est là, Dieu est fidèle. Dieu t'entend, Dieu sauve, Dieu est souverain. Parce que Dieu est fidèle à son alliance, le peuple de Dieu peut avoir confiance, malgré les circonstances. Et j'aimerais vous laisser avec un passage en Romains 8, au verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas tous, tout aussi avec lui? Dieu a fait alliance avec nous, et nous en sommes. Il a donné Christ pour cela. Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, et voici la promesse, voici l'alliance, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Prions. Merci Seigneur pour ce passage. Merci pour Exode 2 qui nous révèle à quel point tu es un Dieu puissant, un Dieu fidèle, un Dieu souverain, un Dieu qui se souvient de nous, qui se souvient de son peuple, qui se souvient de son alliance et qui agit. Même quand nous ne le voyons pas, tu as déjà commencé à agir. Tu as déjà commencé à délivrer, Seigneur. Seigneur, je te prie pour tous les soucis, peut-être aujourd'hui, mais aussi pour tous les soucis de demain. Tous les moments où peut-être les gens feront face à des défis, des montagnes, des choses qui seront tellement difficiles, je prie qu'ils puissent se souvenir que tu es ce Dieu-là. Tu es ce Dieu d'alliance. Tu es ce Dieu qui ne lâche pas. Tu es ce Dieu fidèle, Seigneur. Seigneur, tu vois les écueils, tu vois les choses. Toi, tu es tout puissant. Tu peux faire. Tu peux marquer. Alors, Seigneur, inscris ce message dans nos cœurs que tu es fidèle. malgré les circonstances, on peut avoir confiance. Merci Seigneur. Amen. Merci pour votre attention.